Alors on change, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
Calade,
ma radio.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Alors on change, l'émission mensuelle d'Alternativa Villefranche, consacrée au climat et au développement d'alternatives locales en partenariat avec Calade.
Calade,
ma radio.
Au menu ce soir, de la verdure, mais malheureusement de la verdure comme on n'aime pas trop en voir. On va parler de greenwashing, ou en français, éco-blanchiment, verdissement. Un thème que j'ai eu le plaisir de préparer et que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui en l'absence d'Anne-Sophie, votre habituelle présentatrice. On reçoit ce soir Guillaume Carbou. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir, merci pour l'invitation.
Guillaume, vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Bordeaux. Vos travaux portent sur la circulation des discours sur l'écologie dans l'espace public. Et surtout, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, vous avez supervisé avec Lortelière et Aurélien Barlan la rédaction du livre « Greenwashing, manuel pour dépolluer le débat public ». Un ouvrage évidemment très complet, qui aborde le concept général de greenwashing et son application dans de nombreux domaines. Donc, nous verrons tout cela ensemble pendant les 40 premières minutes de l'émission. Et ensuite, nous aurons le plaisir de retrouver Bernard pour sa chronique habituelle, la Calade verte. Et on finira, comme d'habitude, par un petit point d'actualité associative et climat en Calade. Alors, débutons tout de suite avec ce thème du greenwashing, avec un petit montage qui lave plus blanc que blanc, préparé par notre inusable JC.
Bonjour. Vous voyez cette grosse marque? Avant, pour s'en occuper, c'était pas toujours facile de s'y retrouver.
Il y a deux ans, j'ai eu un vrai déclic. Ça m'a poussé à rejoindre l'équipe de développement durable chez Amazon.
Pour une efficacité pure contre les taches, pour contribuer à préserver notre planète, le chat.
Passer notre amour à la machine. Faites bouillir.
Le greenwashing, c'est une stratégie marketing pour se donner une image trompeuse de responsabilité écologique.
C'est pour éviter ces dérives qu'en 2011, on a promulgué la loi Climat et Résilience.
Vous ne verrez plus avec une cravate, mais avec un col roulé. Et je pense que ce sera très bien, que ça permettra de faire des économies d'énergie.
Les nouveaux BN sont aux céréales complètes. Donc, ça donne de l'énergie. Donc, on aide à préserver la planète.
Il faudra toujours contribuer à préserver la planète. Parce que l'énergie, c'est la vie. Total se transforme et devient Total Énergie.
Total Energy change de nom, explique que, promis, on arrête les énergies fossiles qui font tant de mal à la planète. Sauf que dans les faits, on constate, dans les documents publiés par Total lui-même, que 80% de ses investissements sont consacrés aux énergies fossiles.
Non, mais c'est pas du tout le projet qu'a Total.
Quand on vous dit que Tupperware est une marque verte, on ne vous raconte pas de salade. Tupperware est aussi soucieuse de la santé de la planète que de la vôtre. Alors, Tupperware, marque verte.
Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel?
Plus blanc que blanc, qu'est-ce que c'est comme couleur?
À partir du 1er janvier 2023, les entreprises devront prouver qu'elles ont bien mis en place des actions pour atteindre effectivement la neutralité carbone.
Le greenwashing paralyse tout le monde, c'est-à-dire qu'il encourage l'inaction.
Volvic, une source naturelle de vie qui nous inspire pour agir. Agir en contribuant à préserver l'écosystème autour de la source.
Cette campagne, elle met en avant trois idées. Je baisse la température, par exemple. J'éteins. Je décale.
Moi, ça y est, par exemple, chez moi, ma femme et moi, on a décidé de se traiter, on ne se sert plus du sèche-linge, on éteint le linge.
L'essentiel de ce qu'on appelle la finance verte, malheureusement, reste du greenwashing. La plupart de nos grandes banques savent que si demain matin on décidait de ne plus brûler aucun hydrocarbure fossile, elles seraient en faillite.
Tant d'azur perdu.
Plutôt qu'être le premier pays, comme certains le proposent, à interdire ou à surtaxer les jets, bah soyons le premier pays à leur imposer de voler au biocarburant.
Merci JC. Alors Bruno Le Maire, Total, qui lave plus blanc que blanc, je pense qu'on vient d'avoir une belle illustration du greenwashing. Le greenwashing, c'est un concept qui est né dans les années 70. À cette époque, face aux nombreuses critiques que portaient les mouvements écologistes, il y a eu une espèce de contre-coup qui est venu des intérêts qui avaient finalement le plus à perdre dans une société qui s'écologiserait. Ce sont notamment les secteurs des énergies fossiles, de l'agro-industrie, des banques qui se sont montrés les plus inventifs dans ce domaine. Et dans les années 80, s'est développé un mouvement pour édulcorer le discours écologiste, le récupérer, une vraie stratégie menée par les grands groupes industriels, les lobbies et évidemment certains décideurs politiques au service de ces mêmes lobbies. En cachant les vraies questions d'intérêts économiques et financiers, notamment par le biais d'une écologie d'entreprise ou en prônant par exemple une croissance verte ou encore le développement durable, ces groupes d'intérêts apportent des réponses en fait largement insuffisantes au vu des enjeux du dérèglement climatique actuel. Le terme de greenwashing a alors été inventé par la société civile pour démasquer cette véritable tromperie, cette réponse insuffisante face aux enjeux climatiques auxquels nous faisons face. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on est vraiment condamné à un verdissement superficiel de toutes les activités ? Est-ce que le greenwashing est le propre des grands groupes ? Comment est-ce qu'on peut comprendre, surmonter ce phénomène du greenwashing ? Et comment, enfin, pouvons-nous agir et reprendre la main ? Pour nous aider à répondre à toutes ces questions et surtout nous apporter un regard bien plus acerbe, bien plus profond sur ce concept, nous recevons donc ce soir Guillaume Carbou. Dans votre livre, Guillaume, vous apportez une définition du greenwashing bien plus large que la définition habituelle, qui s'arrête en fait à un simple verdissement de la communication et des produits des entreprises. Vous dites, si nous avons bien compris, que le greenwashing apparaît désormais comme une véritable idéologie, le symptôme d'une pensée moderne verrouillée par trois choses, l'économisme, le technosolutionnisme et la pensée en silo. Donc, finalement, un outil idéologique qui est là pour nous maintenir dans le business as usual, nous maintenir dans la trajectoire actuelle de croissance, dont on sait pourtant qu'elle est insoutenable pour garantir un mode de vie demain à la fois viable et désirable. Alors, ma première question, c'est est-ce que c'est bien là l'idée essentielle de votre ouvrage ? Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ces trois mécanismes, je les rappelle, économisme, technosolutionnisme, pensée en silo, qui sont à l'œuvre dans cette pensée moderne ?
Alors oui, déjà, ben, merci beaucoup d'abord pour le petit montage et l'introduction que vous avez faite et qui est effectivement tout à fait représentative de l'idée qu'on développe dans le livre. Ce qu'on développe, c'est que au-delà de la définition assez classique, un petit peu restreinte du greenwashing comme simple coup de com', verdissement de façade, il y a quelque chose de beaucoup plus large qui se joue aujourd'hui. Je trouve que votre montage le mettait très bien en avant, c'est-à-dire cette présence absolument partout de la prétention écologique à des niveaux extrêmement différents. Il y a du coup de com', mais il y a aussi des choses beaucoup plus matérielles comme des réglementations, des lois, des investissements dans certains développements technologiques qui font que cette prétention écologique, elle prend une forme beaucoup plus large que le simple coup de com'. Et elle va aussi plus loin que le simple acte un petit peu hypocrite d'agents qui consciemment, pour masquer leurs méfaits écologiques, repeindraient la façade en vert. Il y a quelque chose de beaucoup plus idéologique là-dedans et qui nous prend tous, toutes et tous. C'est-à-dire que, en quelque sorte, non seulement il y a du greenwashing, mais en plus, il semble marcher. C'est-à-dire qu'il semble répondre à une forme d'attente sociale, que ce soit pour rester dans une espèce de zone de confort, hein, finalement, plutôt que de croire à la nécessité de changer radicalement nos modes de vie pour éviter la catastrophe, on préfère croire à la petite musique qui nous dit que ben, les entreprises sont en train de se verdir, les gouvernements, les États sont en train de se verdir. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue. Et il y a quelque chose d'encore plus profond, peut-être, effectivement, qu'on développe dans l'introduction et que vous avez évoqué. Il y a l'idée que ce greenwashing généralisé, là, il prend racine dans trois grands éléments qui sont constitutifs de notre pensée moderne, hein, un petit peu de nos évidences contemporaines, qui seraient l'économisme, le technosolutionnisme et la pensée en silo. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec le développement du capitalisme moderne, on va dire, on a du mal à penser les affaires humaines autrement qu'à travers les catégories de l'économie standard. La croissance, la compétitivité, l'emploi, le chômage.
Or, même la croissance verte.
la croissance qu'on voudrait verdir, effectivement, la concurrence qu'on voudrait verte également. Or, on sait que aujourd'hui, on a beaucoup d'études en économie qui nous disent, ben voilà, cette croissance verte, elle se heurte nécessairement à des limites écologiques. Cette compétitivité, cette concurrence, elle amène nécessairement à ce qu'on appelle du dumping social et environnemental. Donc, c'est-à-dire qu'on va pour gagner des points de croissance ou des points de rendement, ben on va les gagner sur la destruction de l'environnement ou sur des conditions de travail pour les humains qui sont non désirables. Donc, tant qu'on ne dépasse pas cette espèce d'horizon indépassable du capitalisme, pour le dire très rapidement, on n'arrivera pas à faire une transition à la hauteur des enjeux. Et donc, dès lors qu'on a des propositions, des prétentions écologiques qui ne remettent pas en cause ce modèle économique de compétitivité internationale et de croissance, on va tomber dans du greenwashing.
Et alors, le technosolutionnisme, oui.
Ouais, deuxième mécanisme, technosolutionnisme, notre pensée moderne aussi a tendance à vouloir régler tous ces problèmes avec un surcroît de technologie, comme si c'était la recherche et le développement qui pourraient régler nos problèmes. On a des problèmes avec l'aviation qui est polluante, faisons des avions à hydrogène. On a des problèmes avec l'automobile qui émet des gaz à effet de serre, faisons des voitures électriques. On a des problèmes avec une agriculture qui serait destructrice, une agriculture industrielle du moins, qui serait destructrice du vivant et émettrice de gaz à effet de serre, faisons une smart agriculture avec de la robotique, etc. Or, là aussi, l'histoire des techniques nous montre bien qu'on a des impasses très très lourdes dans la recherche des solutions à travers la technologie. La technologie pose plein d'autres problèmes, notamment le plus classique, c'est que généralement, elle ne supprime pas les pollutions, mais elle va les déplacer. C'est l'exemple classique de la voiture électrique.
Oui, on en parlera tout à l'heure.
Oui, on en parlera tout à l'heure. Voilà, au bout du pôle échappement, on n'a pas d'émissions, mais l'électricité qui nous permet de rouler, il faut quand même la produire, et elle peut être produite, par exemple, dans les centrales électriques à charbon. Donc, dans un cas comme ça, on a simplement déplacé la pollution. Bon, voilà, des phénomènes classiques. La technologie, en l'état actuel des connaissances, peut apporter quelques gains en termes de pollution au sens large, mais sera, selon toute vraisemblance, vraiment très insuffisante pour arriver à réduire aussi massivement qu'on en a besoin nos impacts sur les écosystèmes.
Et alors, la pensée en silo.
Un mot là-dessus également. La pensée en silo, c'est notre tendance moderne, rationaliste, j'ai envie de dire, à ne pas penser les problèmes d'un point de vue global, mais les penser de manière morceau par morceau. Un exemple typique, c'est lorsqu'on pense la décarbonation des secteurs, secteur par secteur. Donc on dit, par exemple, pensons la décarbonation de l'aviation. Or, si on fait ça, on ne pense pas que peut-être tous les secteurs vont avoir envie d'utiliser les mêmes techniques, par exemple les mêmes technologies, pour réduire leur impact. Lorsque aujourd'hui l'aviation internationale promet de réduire ses émissions en misant par exemple sur l'hydrogène ou sur les agrocarburants, ce qu'elle ne dit pas, c'est que dans ses projections, elle pense utiliser quasiment 80% de la production possible d'agrocarburants à horizon 2050. Sauf que tout le monde utilise des agrocarburants, l'automobile prétend aussi utiliser des agrocarburants, l'agriculture prétend utiliser des agrocarburants. Donc voilà, quand on pense chacun dans son petit silo, on oublie qu'on a une planète finie avec des ressources rares qu'il faudrait penser à partager si on veut réaliser une transition écologique qui soit équitable, démocratique, etc.
C'est ça, vous parlez d'une forme d'aveuglement par rapport aux phénomènes globaux. D'ailleurs, phénomènes globaux qui peuvent être liés aux impacts sur la biodiversité, les pollutions, le réchauffement climatique, voilà, tout ça est lié et finalement, on regarde chaque chose séparément. Alors, je voulais aussi, j'avais noté dans votre ouvrage que vous disiez que le greenwashing était un moyen de caricaturer le discours écologique, de le brouiller vis-à-vis du grand public, dès lors en fait que ce discours écologique soulève de vraies questions de fond. Vous pourriez nous donner quelques exemples de ces caricatures
Alors, plutôt que de alors, ça dépend de quel point de vue on se place, caricature, mais en tout cas, ce qu'il y a que l'on peut observer dans la manière dont circule le discours écologiste dans l'espace public, c'est qu'il est souvent pris entre deux types de contre-feu. Le premier, c'est ce qu'on appelle le greenwashing, dont on parle, une forme de récupération. On essaye d'adoucir la critique par le prétendu consensus, comme si tout le monde se mettait effectivement à faire de l'écologie. Et de l'autre côté, le deuxième type de contre-feu, c'est ce qu'on peut appeler en miroir le green bashing, hein, de bâcher, c'est la diabolisation finalement des discours écologistes. Et là, c'est lorsqu'on on traite les écologistes de Khmer vert, d'ayatollah vert, de
retour à la bougie.
Voilà, ce genre de discours-là. Et en quelque sorte, il y a de ce point de vue-là une sorte de contrôle de ce qui est dissible d'un point de vue écologiste. Dès que la critique vient à remettre un peu trop en cause les modes de vie établis et ce que l'on vient de dire précédemment, hein, le capitalisme, le progressisme technologique et la pensée en silo, de suite, cette critique est étouffée soit par de la récupération, soit par une dévalorisation extrêmement brutale.
Vous avez parlé de récupération, greenwashing comme une usine à récupérer les mots pour les vider de leur sens, donner l'impression finalement que les problèmes sont pris en charge alors qu'en fait pas du tout, et voire même au contraire. Il y a quelques exemples de ça que vous pourriez nous citer.
Ouais, là on est sur le greenwashing, on va dire canal historique, la forme la plus hypocrite finalement de greenwashing, les coups de com. Il s'agit de par exemple pour des produits industriels de les nommer artisanaux, naturels, éco-friendly, verts, accompagner la communication de chants d'oiseaux ou de packaging vert, McDonald's qui change son enseigne en vert. Là, on est dans la connotation naturelle qui n'a finalement vraiment aucun sens et aucun lien avec les actions réelles faites par les entreprises pour diminuer l'impact écologique de leurs activités.
D'accord. En fait, on voit bien, il y a deux techniques à l'œuvre. C'est d'abord discréditer la critique et ensuite, finalement, la récupérer en laissant entendre que les problèmes sont bien pris en charge, même si en réalité, ils sont pris en charge avec des fausses solutions. On verdit ces solutions, en fait. Alors, on aimerait maintenant avec vous aborder quelques-uns des thèmes que des spécialistes ont traités, puisqu'en fait, vous avez coordonné cet ouvrage avec deux de vos collègues, mais sur chaque thème, il y a des spécialistes qui sont intervenus et ils ont essayé de démasquer justement les mécanismes à l'œuvre pour dépolitiser, noyer le poisson, masquer les problèmes en fait sur chacun des sujets en donnant l'impression fallacieuse finalement que les problèmes étaient pris en charge. Est-ce qu'on peut par exemple aborder le sujet de l'agriculture durable? Alors on aurait pu prendre toute autre activité durable, hein, la pêche durable, le développement durable, puisque dans la communication mainstream greenwashing, tout est durable. Est-ce que sur l'agriculture durable, vous pourriez nous dire un peu quels sont les mécanismes à l'œuvre?
Alors, l'enjeu autour de l'agriculture, il est absolument majeur, hein, dans les réflexions sur la transition écologique. D'abord parce que c'est évidemment un secteur absolument essentiel, c'est ce qui nous nourrit, mais pas seulement, c'est aussi ce qui nous habille, c'est aussi ce qui produit en partie l'énergie, etc. Donc c'est un secteur absolument essentiel à la vie, d'abord. Mais le problème, c'est que ce secteur essentiel, il a pris une forme avec l'agriculture industrielle, qui est une forme destructrice du vivant et extrêmement émettrice de gaz à effet de serre. Et par ailleurs, c'est un secteur qui est aussi lui-même le premier à être impacté par l'évolution des conditions météorologiques, par exemple avec le réchauffement climatique. Donc c'est vraiment un sujet extrêmement, extrêmement délicat. Si on peut dire les principaux mécanismes de greenwashing que l'on a souligné là dans l'ouvrage autour de l'agriculture industrielle, le premier, c'est la stratégie qui consiste à nier les alternatives à l'agriculture industrielle. C'est dès lors que l'on essaye de promouvoir l'agroécologie, par exemple, l'idée selon laquelle l'agroécologie, l'agriculture biologique ne pourrait pas nourrir le monde. Voilà, ça c'est une idée sous tout un ensemble de formes qui circule beaucoup et qui est promue en fait par les tenants de l'agriculture industrielle et qui est fausse. En fait, hein, là il y a quand même un consensus dans les études en agronomie qui est assez clair, qui est l'idée que si une agriculture agroécologique est capable de nourrir le monde, il y a tout un ensemble d'études sur le sujet, des scénarios divers et variés, qui le prouve absolument. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas niable. Alors, il y a des spécificités là-dessus. L'agroécologie pourrait nourrir le monde à une condition essentielle qui est de réduire la place de l'élevage, de la viande, parce qu'aujourd'hui, une grande partie des surfaces utilisées dans le monde l'est en fait pour nourrir les animaux.
Notamment par le maïs.
Si on convertit ces surfaces servant à nourrir les animaux en surfaces servant à nourrir les humains, notamment avec des productions de type de légumineuses, hein, des protéines végétales, on a la possibilité, on a tout un ensemble de scénarios qui disent, ben oui, on peut tout à fait nourrir 10 milliards d'êtres humains de cette manière-là. Donc ça, c'est un premier mécanisme de greenwashing très très fort. En fait, on est dans des subtilités de greenwashing, mais en tout cas, c'est le fait de discréditer les alternatives. L'autre pendant finalement du greenwashing de l'agro-industrie, c'est de suggérer que dans la logique industrielle, on peut prendre en charge des enjeux écologiques. Et là, on voit fleurir tout un ensemble de stratégies, alors soit des labels, hein, on connaît le label HVE, hein, haute valeur environnementale, qui colonise un peu tous nos étals aujourd'hui. Et s'il arrive à coloniser tous nos étals, c'est justement parce qu'il n'est pas très exigeant et qu'il a en fait une labellisation environnementale de l'existant, hein, si l'on peut dire. On voit aussi surgir tout un ensemble de pratiques, alors l'agriculture de précision, l'agriculture de conservation des sols, l'agriculture, la lutte intégrée, tout un ensemble de pratiques qui en soi peuvent avoir des intérêts limités, mais qui présentent le gros problème de ne pas du tout remettre en question le modèle industriel général, avec notamment son usage massif de pesticides, sa recherche du rendement maximal, de l'optimisation du rendement, et donc sans remettre en cause toutes les dégradations majeures qui en découlent autour.
Oui, parce que cette agriculture industrielle, en fait, elle use les sols et donc elle est obligée de plus en plus de recourir à ces pesticides. En fait, finalement, il y aurait un seul autre modèle qui ferait plus de place au travail humain, au processus bio, qui permettrait une agriculture durable et une alimentation saine à l'avenir, en réalité. Le reste, tout ce dont vous avez parlé actuellement, ça, c'est du greenwashing, effectivement. Et alors, la catastrophe numérique...
En général, effectivement, on est... Je voulais juste rajouter un élément là-dessus, parce que je ne l'ai pas dit, mais sur la question de nourrir le monde, il y a un élément qu'on rappelle trop peu souvent, mais c'est que l'agriculture industrielle ou la pêche industrielle qu'on connaît aujourd'hui ne nourrit pas du tout le monde aujourd'hui. Oui. En fait, plus de la moitié des gens dans le monde se nourrissent à partir d'une pêche ou d'une agriculture avec traditionnelle, familiale, avec très peu d'intrants chimiques. C'est aussi rappeler ça, c'est aussi démasquer un petit peu l'imposture du discours consistant à dire « nous, le désastre ».
C'est important parce que ce sont des discours effectivement qu'on entend, non pas seulement des tenants du greenwashing, mais dans la population de manière générale. Les gens pensent effectivement qu'on ne pourrait pas nourrir la planète autrement que par l'agriculture industrielle. Alors qu'en réalité, ce n'est pas comme ça que la majorité de la population se nourrit aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot de la catastrophe numérique et de la dématérialisation? Puisque, prenons l'exemple de l'agriculture, par exemple. L'agriculture numérique fait partie, selon vous, des fausses bonnes solutions.
Oui, alors on tombe ici dans le fameux technosolutionnisme dont on parlait au début de l'émission. Pour régler le problème de l'agriculture et tout un ensemble d'autres problèmes, on nous promet la transition numérique, la smart agriculture, la smart city, pour les cities, les smart grids pour la distribution de l'énergie. Or, faisant cela, on ne pose à peu près jamais la question d'abord de la désirabilité d'un tel modèle. A-t-on envie que les cultures paysannes disparaissent pour être remplacées par des drones, désherbeurs et cultivateurs? Première question. Mais surtout, on ne pose pas la question de la soutenabilité d'un tel modèle. Et évidemment, le numérique, malgré le terme dématérialisation, qui est un terme de greenwashing, le numérique est extrêmement matériel. Derrière l'industrie numérique, il y a une industrie extractiviste de matières minières absolument gigantesque. Il y a des infrastructures de réseaux, de cuivre, de fibres qui mesurent des centaines de milliers de kilomètres, hein, mis bout à bout. Et on a des consommations énergétiques énormes pour faire tourner les ordinateurs, les smartphones et évidemment les serveurs, les data centers. Donc, le problème de toutes les promesses de la salvation écologique par le numérique, c'est qu'on ne pose jamais la question de l'impact du numérique lui-même. Or, lorsqu'on regarde les rapports qui s'intéressent spécifiquement à ces impacts du numérique, c'est assez clair, là également aussi, le numérique tel qu'il existe aujourd'hui, il ne rentre pas dans les trajectoires de soutenabilité. On a C'est aujourd'hui presque 5 à 6 % des émissions de gaz à effet de serre. C'est le double de l'aviation, hein, par exemple, le numérique facilement. Et c'est surtout un secteur qui est énormément en croissance dans ses pollutions, en gaz à effet de serre et en pollution chimique, puisque l'activité minière qui est son soubassement est sans doute l'activité la plus polluante, l'activité industrielle la plus polluante qui existe.
D'accord, merci beaucoup. Alors, peut-être une dernière petite question avant de faire une pause musicale autour de l'éco-citoyenneté. Alors, est-ce que vraiment le changement, c'est la somme des changements individuels ? Est-ce que la promotion de l'éco-citoyen, c'est pas un peu limité ? Est-ce que c'est même peut-être pas contre-productif par rapport aux résultats attendus, c'est-à-dire globalement une baisse des émissions de gaz à effet de serre, des pollutions, etc. ?
Oui, alors on vient d'évoquer le technosolutionnisme à travers le numérique, et là ce qu'on évoque avec l'éco-citoyenneté, c'est une autre forme de pensée en silo, parce que lorsqu'on pense des solutions individuelles, eh bien on s'aveugle sur la dimension systémique d'une société. Or, ce que nous apprennent les sciences sociales depuis des dizaines et dizaines d'années, c'est que le tout est plus que la somme de ses parties, et que les problèmes écologiques ils relèvent plus de choix collectifs, de choix d'infrastructures, par exemple, pour les déplacements. Hein. Aujourd'hui, pour un individu qui vit en zone rurale, la voiture n'est pas un choix, mais c'est une dépendance en raison de l'aménagement du territoire. Et donc, sa capacité à émettre moins pour ses mobilités, ce n'est pas une capacité individuelle, c'est une capacité politique et sociale d'aménager le territoire en sorte à lui permettre soit de moins devoir se déplacer, soit d'avoir des infrastructures de transport en commun. Donc, en disant cela, on se rend compte que lorsqu'on insiste uniquement sur la responsabilité individuelle, on manque toute la politisation nécessaire pour penser véritablement les enjeux écologiques. Et par ailleurs, ouais, on risque de culpabiliser les individus et de renforcer finalement une forme de dénigrement, voire même parfois de détestation des discours écologistes.
Sans compter l'inégalité devant les pollutions. J'avais lu dans votre ouvrage qu'un ménage, les ménages qui font partie des 10% les plus riches émettent en réalité 2-3 fois plus qu'un ménage des 10% les plus pauvres en CO2.
Oui, et là, c'est un chiffre qui, par ailleurs, ne prend pas en compte les investissements. Et si on rajoute là-dessus ce que les pollutions que font des investissements, en tout cas des placements bancaires, là, les écarts d'émissions entre les plus pauvres et les plus riches explosent. Et c'est un autre problème, effectivement, en deux mots, et là, de pointer les responsabilités individuelles, c'est que souvent, on le fait de manière indifférenciée. Or, très clairement, même si il ne relève pas de l'action individuelle de régler les problèmes, certains individus dans notre société et les ménages les plus riches ont des leviers beaucoup plus forts que les plus pauvres pour transformer les choses, que ce soit des leviers en termes d'impact écologique de leur propre mode de vie. Évidemment, quelqu'un qui est riche peut se permettre d'acheter une voiture moins lourde et plus petite pour polluer moins lorsqu'il roule, mais aussi en termes de leviers politiques. Les personnes les plus riches sont aussi les personnes qui sont souvent dans les postes à plus haute responsabilité, que ce soit dans les entreprises ou au niveau des services publics, et ce serait eux qui auraient le plus de pouvoir d'impulser des transformations importantes. Donc effectivement, quand on pense responsabilité individuelle, il faut aussi penser, et surtout penser, responsabilité différenciée.
Tout ça est très intéressant, merci Guillaume. On fait une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite.
On veut du green, on veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit.
On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs.
On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer, on veut du
c'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 greenwashing.
Elle cache les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc, du réseau pour nos portables, on voudrait quatre bars tout le temps, des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables.
On veut des baleines et du thon.
On veut du green, 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 greenwashing. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 green,
peu moins creusés.
On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été.
Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques.
On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique.
On veut du green, 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 green washing.
C'est nous les as, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 green washing.
On veut des lessives sans phosphate, des shampoings tout organiques.
Des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques.
Des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert.
Mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire.
On veut du green, 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 green washing.
Calade
100.9.
Voilà, c'était Trio et son titre Greenwashing. Bravo aux copains qui ont fait la programmation musicale. Alors Guillaume, nous avons abordé déjà deux thèmes, l'agriculture durable, l'éco-citoyenneté dans cette première partie. L'ouvrage que vous avez rédigé comporte 24 thèmes, donc ce sera assez frustrant de ne pas pouvoir vous entendre sur tous les autres, tellement c'est passionnant. Mais puisqu'il faut faire des choix, on a retenu trois sujets qui nous paraissent au cœur des problématiques actuelles. Les notions d'énergie décarbonée et de neutralité carbone, ensemble je dirais. La notion de RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Et puis les fameux véhicules propres dont vous avez un petit peu parlé déjà tout à l'heure. Première question donc sur en matière énergétique. En quoi le couplage neutralité carbone, finance verte et tous ces mécanismes de compensation sont-ils pervers et à terme néfastes pour la planète ? Est-ce qu'on peut croire globalement dans les promesses de la Société Générale, de la BNP ou de Total ? Ou alors j'ai entendu même récemment Air France qui nous promettait de compenser nos émissions de gaz à effet de serre en prenant l'avion, en compensant avec des arbres qu'on plantait à l'autre bout du monde. Voilà, toutes ces démarches pour laver leur image, est-ce qu'on peut y croire, sachant que ces entreprises ont créé, pour certaines d'entre elles, des guides internes pour permettre à leurs salariés de défendre leur image face justement aux attaques de greenwashing. Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement en fait incompatibilité entre le financement des énergies fossiles par les banques et la préservation du climat ?
Oui, alors là, vous abordez effectivement le cœur du greenwashing pour les années à venir et qui est déjà très largement mis en place avec effectivement ce duo neutralité carbone et compensation écologique qui est finalement à la base de d'énormément de, si j'ose dire, enfumage de la part de tout un ensemble d'acteurs et parfois enfumage très sincère. Hein, il ne s'agit pas toujours de jeter la pierre. Il y a aussi beaucoup de gens qui croit en quelque sorte, sans en connaître véritablement tous les ressorts, à ces logiques-là. Alors qu'est-ce que c'est cette logique-là ? L'idée de neutralité carbone, d'abord, c'est une idée qui est plutôt issue des sciences du climat, et c'est l'idée que si on a un bilan neutre entre les émissions de gaz à effet de serre anthropiques par les activités humaines et ce que captent naturellement les puits de carbone naturels dans l'atmosphère, à savoir les puits de carbone naturels, c'est la végétation qui capte du carbone en poussant, les océans qui stockent du carbone, même ils s'acidifient en le faisant, donc il faudrait qu'ils ne le fassent pas trop, et les sols qui captent aussi du carbone. Si on a une balance neutre entre, si on est à zéro entre nos émissions et la captation, on est à la neutralité carbone, et lorsqu'on est à la neutralité carbone, le climat est stabilisé. Donc l'objectif des politiques climatiques, c'est atteindre la neutralité carbone. Donc c'est en soi une très bonne idée. Le problème, c'est que cette idée-là, elle est récupérée de manière extrêmement fallacieuse par des entreprises qui prétendent, par exemple, atteindre la neutralité carbone elles-mêmes à titre individuel. Or, comme je viens d'expliquer, c'est l'idée de neutralité carbone du point de vue des sciences du climat, c'est un phénomène global. Et en parler à titre individuel, finalement, ça n'a plus aucun sens. D'ailleurs, récemment, l'ADEME, hein, l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie, a émis une note disant que le concept de neutralité carbone ne devait pas pouvoir être utilisé en dehors du niveau international, voire national. D'accord ? Donc, elle déconseille cet usage ou elle critique cet usage par les entreprises.
Une entreprise neutre en carbone, c'est pas réaliste.
Mais alors, c'est-à-dire que c'est pas que c'est pas réaliste, mais c'est que ça dévoie complètement l'idée de neutralité carbone. Puisque lorsqu'une entreprise se prétend neutre en carbone, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'elle fait le bilan de ses émissions de CO2, voilà, Total calcule ses émissions de CO2. Déjà, il peut y avoir débat sur quel est le périmètre sur lequel elle calcule ses émissions de CO2. Est-ce que Total prend en compte l'utilisation des produits qu'elle vend ? Parce que dès lors que Total prendra en compte les émissions de CO2 dues au fait qu'on brûle l'essence, ça lui ferait exploser son bilan carbone. Bon, déjà, il y a un premier jeu comptable à ce niveau-là. Mais disons qu'elle fait son bilan carbone et elle dit, ben, pour être neutre en carbone, je vais financer, par exemple, des projets de plantation d'arbres qui permettraient, selon des calculs de coin de table, de capter autant de CO2 que ce que j'émets dans mon bilan carbone. Or, cette logique-là, elle pose tout un ensemble de problèmes. D'abord, ça ne marche pas très bien. D'un point de vue véritable, d'un point de vue matériel, toutes les études qui essayent de voir si les stratégies de compensation carbone en plantant des arbres, par exemple...
Les arbres ne poussent pas assez vite.
Ouais, les arbres ne poussent pas assez vite. Et puis, on l'a remarqué, l'été, les arbres brûlent beaucoup. L'été, les arbres sont malades aussi, avec le changement climatique, avec les maladies invasives, etc. Donc, au final, ça marche très, très mal. Et puis, souvent, on va... faire des plantations d'arbres qui sont des monocultures industrielles et qui posent à côté de... Certes, ça capte un peu de CO2, mais ça pose tout un ensemble de problèmes au niveau de la dégradation de la biodiversité. Donc déjà, le premier problème de cette idée de compensation carbone, j'émets d'un côté, mais de l'autre côté, je plante des arbres pour compenser, c'est que ça ne marche pas, d'abord. Et le deuxième problème, qui est un problème plus, on va dire, de vision des choses, c'est qu'au final, c'est une sorte de droit à polluer. C'est-à-dire... Je m'arroge, je dis, cette forêt-là, comme j'ai payé pour qu'elle soit plantée ou pour qu'elle soit protégée, eh bien, elle capte du CO2 pour moi. Et donc, j'ai le droit de faire de forer des champs de pétrole ou de gaz. J'ai le droit de faire voler des avions parce que j'ai payé pour cette forêt-là. Et on voit bien que c'est une logique complètement perverse parce que si on poussait l'idée au maximum, imaginons que demain, une compagnie aérienne achète toutes les forêts du monde, très bien, elle est neutre en carbone parce qu'elle fait voler ses avions, mais au final, ça ne règle pas du tout le problème des émissions globales de CO2 dans le monde. Vous voyez ?
D'accord. Alors, parlons maintenant de la responsabilité sociétale des entreprises. Est-ce que ça aussi, c'est une fausse promesse ? Est-ce que c'est de la poudre aux yeux ? Pourquoi ça ?
On est par rapport aux trois problèmes qu'on avait évoqués au début, économisme, technosolutionnisme, pensée en silo, exactement dans le problème de l'économisme. En gros, lorsqu'on demande aux entreprises d'être responsables, donc de faire de la RSE, de la responsabilité sociétale et environnementale, par exemple, c'est des définitions qu'on peut donner, on leur demande de les faire dans le milieu économique, dans le système économique tel qu'il existe. Or, dans notre système économique qui est basé sur la concurrence, la compétitivité internationale, si vous essayez de faire les choses bien, mais que ça vous fait perdre des points de croissance, que ça vous fait perdre en compétitivité, vous allez très rapidement disparaître, vous allez vous faire avaler par un concurrent qui serait moins scrupuleux que vous, plus prédateur, etc. Donc en fait, la limite énorme de la responsabilité sociétale des entreprises, c'est qu'en l'absence d'une régulation forte et internationale, les entreprises sont obligées de s'aligner sur le plus petit dénominateur commun.
Mais il y a des certificats, il y a des labellisations, c'est vachement bien organisé tout ça, non ?
Oui, alors, et le deuxième problème, c'est que demander à des entreprises d'être responsables, mais dans un système où elles ne peuvent pas l'être, ça pousse ces entreprises à tout un ensemble de stratégies de communication fallacieuses pour se faire passer pour plus vertes qu'elles ne sont. Et là, on a le développement de tous les labels, les certifications qui sont en fait bien souvent des systèmes qui sont complètement noyautés en fait par les industriels, par les lobbies industriels. La plupart des cahiers des charges, des certifications ou des labels sont en fait définis par les industriels eux-mêmes ne remettent pas en cause le problème majeur qui est la logique productiviste, consumériste, capitaliste, qui est au fond des choses.
Très bien, c'est clair. Alors, pour revenir à des choses vraiment très concrètes, c'est quoi cet enfumage autour du véhicule propre ?
Alors, le véhicule propre, on est dans le technosolutionnisme, on l'a dit tout à l'heure. Technosolutionnisme pose trois problèmes. Le premier, je l'ai dit, c'est souvent on déplace les pollutions plutôt que de les supprimer. Le véhicule électrique, on déplace la pollution depuis l'utilisation vers la production d'électricité, où on transforme la pollution en CO2, en pollution minière, puisqu'on le sait, le véhicule électrique, c'est une exploitation de nombreux minerais pour faire les batteries, etc., etc. Donc ça, premier problème. Deuxième problème du technosolutionnisme, c'est qu'il empêche de penser les alternatives. Et le problème de la voiture, aujourd'hui, c'est pas tant qu'elle soit thermique, c'est la voiture tout court. C'est qu'on est beaucoup trop dépendant de la voiture. Et on ne pourra jamais convertir toutes les voitures thermiques en voitures électriques. Ce serait de la même manière une catastrophe écologique pour les raisons que je viens d'évoquer. Donc le problème que pose la promesse d'un véhicule vert, c'est qu'il ne remet pas en cause notre attachement dans les pays riches, parce que c'est un privilège, si j'ose dire, privilège d'ailleurs, mais en tout cas c'est une spécificité de pays riches, d'utiliser des voitures individuelles.
En donc, plus, on les fait toujours plus lourdes.
Le problème derrière, c'est le véhicule propre. C'est-à-dire que ce qu'on a besoin de remettre en cause, c'est notre dépendance au véhicule individuel.
C'est d'aller vers la sobriété, en réalité. Et même dans les solutions comme les véhicules propres, on a cette problématique du poids des véhicules aussi, qui est une forme d'injustice également.
Forme d'injustice, et puis c'est exactement ce que je viens de dire aussi, c'est que lorsqu'on pense la solution par la technique, par la technologie, on oublie des solutions qui sont des solutions finalement low-tech, très simples, et dont on serait sûr qu'elles fonctionneraient immédiatement. Et ce que vous venez d'évoquer, c'est l'éléphant au milieu du couloir hein, de la mobilité, c'est la réduction du poids des véhicules, que ce soit pour la voiture. Aujourd'hui, les émissions de CO2 d'une voiture, c'est une corrélation stricte du poids du véhicule. Donc, vous réduisez de moitié le poids des véhicules et vous réduisez de moitié les émissions des véhicules. C'est pas compliqué. Et ce serait vraiment déjà quelque chose qui serait très utile. C'est la même chose pour l'aviation. Hein. Lorsqu'on réfléchit à comment réduire les émissions de l'aviation, il y a un truc qui marche très bien, c'est voler moins vite, voler moins haut, voler avec des avions à turbopropulseur, hein, voilà. Il y a des solutions qui sont des solutions non techniques, plutôt de l'ordre de la sobriété, effectivement, qui pourraient être implémentées, mais qui sont complètement effacées du débat public par les mirifiques promesses de l'avion 4.0 ou de la voiture autonome.
Merci, Guillaume. J'ai en mémoire une anecdote de votre livre, c'est la palme du greenwashing quand même. Il y a un chercheur américain qui aurait dit qu'il serait possible un jour de recharger les voitures électriques juste avec un peu de salive. Alors qu'on sait très bien que la salive contient une quantité d'énergie qui est ridiculement faible. Bref, donc on a compris à travers tous ces exemples que vous nous avez donnés que le greenwashing, en fait, ce n'est pas une dérive circonstancielle, mais c'est une vraie nécessité pour le système, pour les sociétés industrielles, d'assurer leur reproduction et leur essor. Et donc, soyons moins naïfs, ayons un regard plus critique. Est-ce que, en dernier mot et en deux petites phrases, vous pourriez, et pour finir sur l'action quelque part, nous dire qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour lutter contre ces stratégies néfastes et faire avancer réellement la cause écologiste ?
Bon, là, c'est une grande question. Que faire, hein ? Il faut sans doute faire feu de tout bois. Hein, c'est souvent l'habitude de dire ça. C'est-à-dire que il n'y a pas de balle en argent, de technique miracle. Toutes les modes d'engagement sont beaux à prendre sur le sujet. À condition, et ce serait peut-être le conseil, c'est le type de travail qu'on a essayé de faire avec cet ouvrage-là. À condition, d'abord, de bien comprendre en profondeur les enjeux dans toute leur complexité. Finalement, déjouer le greenwashing, c'est lever le voile sur tout un ensemble de mécanismes dont on a parlé, l'économisme, le technosolutionnisme, la question, comme vous venez de l'évoquer, des ordres de grandeur, c'est absolument crucial parce qu'il y a énormément de greenwashing dans les ordres de grandeur où on vous promet une solution, l'hydrogène par exemple, sauf ce qu'on ne dit pas, c'est que les capacités de production d'hydrogène vert sont extrêmement faibles. Donc c'est très bien, sans doute bien l'hydrogène vert, mais on n'en produira jamais assez, par exemple, pour faire rouler toutes les voitures à l'hydrogène vert. Ça n'a absolument aucun sens de dire ça. Donc voilà, déjouer le greenwashing, c'est comprendre en profondeur les enjeux auquel nous faisons face, et l'enjeu majeur, c'est de transformer radicalement les structures de notre société et nos modes de vie.
Merci Guillaume, une pause musicale.
Un matin on dira ce matin il pleut, mais la pluie ce jour-là ce sera du feu. On verra tous les rats courir dans les rues, les agents et les gens s'en aller tout nus. Ha ha, c'est la fin du monde. Ha ha, tant pis pour le monde. Ha ha, mais comme on est des rigolos. Hey, on va refaire l'arche de Noé. C'est la meilleure solution contre les inondations et les bombardements d'électrons. On va refaire l'arche de Noé, un modèle super géant pour les petits et les grands, pour les hommes et les orangs-outans.
On verra ce jour-là les grands chefs d'État bien parqués sur le quai par paquet de trois. Des nazis, la NASA, Mao et moi, embarqués sans chiquer avec un boa.
Ha ha, c'est la fin du monde. Ha ha, tant pis pour le monde. Ha ha, mais comme on est des rigolos.
Bom 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 bom.
Un Chopin
et un Chaplin,
un chanteur,
un androgyne,
un canard.
Alors où est le canard?
Une rose
et un Lénine,
un PD,
une Messaline,
un raton,
une Arlequine, un marin,
une Mélusine.
Calade, ma radio.
Michel Vuguin et le Big Bazar. Le Big Bazar, c'est maintenant, mais ça ne nous empêche pas de garder de l'espoir et de la joie de vivre, comme dans cette chanson. Un grand merci à Guillaume Carbou pour cette discussion passionnante autour de quelques-uns des thèmes qui ont été développés dans cet ouvrage consacré au greenwashing, qui comporte beaucoup de sujets, tous plus éclairants les uns que les autres. Je vous encourage vraiment à le lire sur cette machine à laver si puissante qu'est le greenwashing. J'espère que nous aurons l'occasion d'accueillir de nouveau Guillaume ou ses collègues pour en développer certains autres. Pour approfondir ce sujet, vous pouvez, chers auditeurs, chères auditrices, entrer dès maintenant dans l'action, bien sûr, déjà en lisant ce livre. Il est en poche, donc facilement accessible. Vous trouverez les liens d'infos sur la page de l'émission sur le site de Calade. Et bien sûr, vous pouvez rejoindre notre groupe Alternativa Local, où ces sujets du greenwashing sont au cœur de nos activités. Encore un grand merci à Guillaume. Bonne continuation dans vos travaux, Guillaume. Également un grand merci à Bernard, avec qui j'ai eu le plaisir de préparer cette émission, et qui va maintenant nous présenter la fameuse chronique de la Calade Verte, l'actu climat au vitriol par l'alternativien du verbe. À toi, Bernard.
Merci Vincent et bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on va parler de la bonne ville d'Anse, un nom qui peut parfois rimer avec démence. Si dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, au port du Bordelais, la nature déchante. Ça se passe près d'Anse, sur les bords de la Saône. Alors que de partout les alertes résonnent, nos chers élus locaux, insensibles au fracas du chaos climatique, installent un syndicat. Et pourquoi, s'il vous plaît ? pour en faire un port fluvial qu'il voudrait pour toujours graver dans les annales. Le plus grand du pays, le poumon vert de Lyon. Alors mairie, agglo, département, région s'unissent pour bâtir ce projet mégalo, car ce qui est prévu, c'est pas des pédalos, mais plutôt des centaines de bateaux à moteur, vous savez, dans le genre bien crasseux, bien pollueur, gourmand en carburant, prodigue en GES. Là, nous sommes vraiment loin de toute sagesse. Et si encore on nous proposait des péniches ? Ah mais bien sûr que non, il en faut pour les riches, des Chris-Craft, des hors-bord, et pourquoi pas des yachts, ça déparerait pas pour compléter la flotte. Projet de notre temps, projet d'un ancien monde, projet qui fait vibrer les élus à la ronde. Dans l'intérêt de qui ? Quels sont les objectifs ? Alors là, pour répondre, on les sent plus rétifs. Ou alors ils nous sortent les arguments classiques, tellement prévisibles, tellement pathétiques, usés jusqu'à la corde, proche du je m'en fichisme. Ils nous parlent développement, ils nous parlent tourisme, toujours les mêmes promesses, toujours les mêmes mirages, toujours les mêmes discours en complet décalage avec les vrais enjeux du monde d'aujourd'hui, climatiques, sociaux et tout ce qui s'ensuit. Mesdames et messieurs élus du Beaujolais, le monde a bien changé, faut-il le rappeler, depuis que ce projet n'était qu'une vague image. C'était une autre époque, il faut tourner la page. Un peu partout en France, des projets similaires ont eu pour résultat d'engendrer la colère légitime de ceux qui défendent le vivant. Fermes-usines, carrières, mines, entrepôts géants, autoroutes inutiles comme l'A69, tout ça c'est des projets qu'on doit tuer dans l'œuf. La justice parfois met fin à ses combines, comme tout récemment pour des méga-bassines. Parfois elle est trop lente ou même impuissante, raison de plus pour garder la fibre résistante. Mais revenons maintenant au port du Bordelan pour livrer une info du genre stimulant. Des élus, animés d'un sursaut salutaire, refusent de cautionner ce projet délétère. La nouvelle nous vient de la métropole de Lyon qui, du financement, a retiré ses pions. Grâce vous soit rendue, élus de Luc Dunhom, vous au moins ne prenez pas les gens pour des pommes. Le climat est pour vous un combat essentiel. Le respect du vivant, c'est votre logiciel. L'ours polaire, bien loin de votre métropole, vous dit merci car lui aussi est métropole. C'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, le temps manque. On aurait pu parler par exemple des banques qui financent toujours les industries fossiles ou de la COP28. Est-ce vraiment subtil de l'affaire Dubaï ou de notre Calade qui dépense des fortunes pour éclairer son stade ou de notre président avouant droit dans ses bottes adorer la bagnole pour remonter sa cote ? En attendant, portez-vous bien et restez optimistes. L'avenir est joyeux pour tous ceux qui résistent.
Merci Bernard pour ces informations sur le port fluvial de Anse qui lave plus blanc que blanc. Vous y croyez ? Vous avez des doutes ? Si vous avez des doutes, rejoignez-nous. Je termine cette émission avec quelques rendez-vous pour passer à l'action. La première info à vous partager, c'est la date de la prochaine formation à l'action de désobéissance civile non violente, organisée par le groupe local de Villefranche ANV COP21, la branche action de la transition écolo. Ça sera le 2 décembre matin à Villefranche. Vous trouverez le lien pour vous inscrire. Et oui, il faut s'inscrire pour y participer. Nous aurons également une réunion d'information et d'accueil des nouveaux et des nouvelles qui veulent nous rejoindre le 9 décembre matin et une prochaine séance de cinéma, le cinéma Alternativa, le jeudi 7 décembre à 20h au 400 coups avec le film Low Tech dont on a parlé tout à l'heure un peu avec notre invité. Et voilà, cette émission se termine. Cette première expérience a été un vrai plaisir pour moi. Merci à Gaël qui était à la technique ce soir. Merci aussi évidemment à Calade pour ce temps d'antenne qui nous est si précieux. Bonne semaine à toutes et à tous et rendez-vous le mois prochain. On parlera sobriété avec la revue Silence. À tout bientôt.
Alors on chante, qu'est-ce qu'on attend ? On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
100.9 Calade.